Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Moseka Attitude, une émission de Radio Ndekeluka, la radio de la paix et du développement. Moseka Attitude, l'espace d'échange dédié aux jeunes, ça passe tous les jours du lundi au vendredi à partir de 16h. Il y a plus de 60 ans aujourd'hui que l'Union Européenne soutient la République Centrafricaine dans plusieurs domaines. Les jeunes présents ici avec nous dans le studio, moi y compris, allons échanger sur l'engagement de l'Union Européenne en République Centrafricaine. Sécurité et justice, relance de l'économie, lutte contre les violences basées sur le genre et la désinformation, que sais-je encore, voilà tant de domaines d'intervention de l'Union Européenne en République Centrafricaine. Cependant, quel soutien de l'Union Européenne aujourd'hui pour la RCA afin de l'accompagner dans la recherche de la paix et ses initiatives de développement socio-économique? Rassurez-vous, chers jeunes, la réponse à toutes vos interrogations, c'est tout de suite avec notre invité spécial qui est Monsieur Bernard Quétin, directeur général Afrique du Service européen d'action extérieure de l'Union européenne. Il est de passage en Centrafrique. Merci, monsieur Bernard Quétin. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci pour ce passage ici à Radio Ndekeluka pour échanger avec la jeunesse sur ce plateau de Moseka Attitude. Nous avons deux autres invités, Leonora Kassala, elle est étudiante en première année de licence en biologie à la faculté des sciences à l'université de Bangui. Leonora, bel après-midi, merci d'être venue.
Merci bien de permettre.
Et Aseira Ibrahim, étudiante en deuxième année de licence en informatique à Haute École de Gestion et de Comptabilité. Aseira, bel après-midi, merci d'être de nôtre.
Bel après-midi, Jefferson.
Je suis Jefferson Zigaraba, la mise en onde est assurée par Gabriel Trésor Yenemati. Une fois de plus, recevez nos civilités. Merci de vous avoir nombreux à l'écoute des 100.9 FM. L'émission, c'est Moseka Attitude. L'engagement européen en République centrafricaine, c'est le thème de notre échange d'aujourd'hui. Actualité oblige Monsieur Bernard Quétin. Le Centrafrique est dans l'attente d'un dialogue dit républicain. Qu'attendez-vous à l'issue de cette énième concertation entre Centrafricains?
Merci pour cette question. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir ce que les Centrafricains attendent de ce dialogue. Républicain. Nous sommes là pour appuyer toutes les dynamiques positives et nous considérons évidemment que ce dialogue républicain voulu par le président de la République fait partie de ces dynamiques positives. Nous sommes évidemment en appui de tout ce qui est la solution ou disons de tous les aspects dans la solution sécuritaire, que ce soit militaire ou pour les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, mais bien conscient que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut aussi travailler à la réconciliation qui, elle, est aussi une condition nécessaire à la reconstruction du pays. Et donc, ce dialogue républicain, c'est comme ça que nous le comprenons. Donc, nous sommes là pour l'appuyer, mais comme je disais, nos attentes, c'est de pouvoir appuyer toutes les dynamiques positives dans le pays. Donc, nous sommes à l'écoute des attentes des Centrafricains.
Et si vous êtes là pour appuyer, toujours parlant de ce dialogue, hein, aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition ont annoncé récemment leur retrait du comité de préparation en évoquant la relance des procédures de levée d'immunité des trois députés de l'opposition. Quel commentaire faites-vous de cette affaire ?
C'est toujours difficile pour un acteur étranger de commenter la politique intérieure, surtout de cette sensibilité-là, par rapport à ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale. Ce que moi je constate, c'est que il y a eu en effet, disons, à tout le moins cette crispation, vous me permettrez cet euphémisme diplomatique, mais c'est un atavisme de mon métier probablement. D'après ce que j'ai compris, les procédures de levée d'immunité ont été arrêtées, voire supprimées, et donc nous espérons que nous appelons en tout cas tous les acteurs à participer pleinement et de bonne foi à ce dialogue républicain, sans, comme je le disais, entrer, j'allais dire dans les détails, le mot est peut-être mal choisi, mais sans entrer dans toutes les conditions. Ça, c'est pas à nous à le faire. Ce qui est important, c'est que le dialogue ait lieu et que les conditions d'un dialogue qui se passe de bonne foi soient réunies et que de tous les côtés, les éléments de crispation soient levés.
Ok, la lutte contre la désinformation préoccupe aussi les jeunes centrafricains et donc Aseir a une question pour vous.
Merci une fois de plus, Jefferson, de m'avoir donné la parole. Je vous salue, monsieur Bernard Quétin. J'ai une question à vous poser concernant la désinformation en Centrafrique, bien sûr. La lutte contre la désinformation est un combat que mène la Radio Ndekeluka en partenariat avec l'Union européenne. Quelle lecture faites-vous de la désinformation sans trafic ?
Merci pour la question, qui mérite toute une émission à elle seule. Je pourrais ici vous lire tout ce que j'ai sous les yeux. Ce que je dirais, et c'est pour ça que nous appuyons la radio à travers la Fondation Hirondelle et ici en République centrafricaine, comme dans d'autres pays d'ailleurs, c'est que je parlais tout à l'heure de réconciliation et je parlais de bonne foi en parlant du dialogue républicain. Mais tout ça m'amène à l'idée que la lutte contre la désinformation fait partie de cette dynamique-là. Pour pouvoir avoir une réconciliation de la population, mais même, on pourrait presque dire, on pourrait mettre ça même dans la cellule familiale, il faut avoir de la bonne information, de l'information qui est vérifiée. Donc il y a là un vrai travail important pour la presse. Il y a des faits, ces faits doivent être vérifiés et ces faits doivent être exposés. Et c'est sur base de ces faits vérifiés que l'on peut après faire des analyses. Et là, on peut bien sûr diverger dans le cadre des analyses, on peut avoir des lectures différentes, mais il faut quand même que les faits soient avérés et pour ça qu'ils soient aussi corroborés. Donc on constate, pour venir un peu plus particulièrement sur votre question, qu'il y a beaucoup de désinformation. Alors ce n'est pas une caractéristique spécifique à la République centrafricaine, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Ça s'appelle parfois la propagande, ça s'appelle, et alors en période de guerre, c'est un outil de guerre, la manipulation de l'information pour jouer sur le moral des troupes adverses ou ce genre de choses-là. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui existe partout, mais qui évidemment est un phénomène amplifié par les réseaux sociaux. Comme toute chose, il y a deux côtés de la médaille, il y a le côté, je dirais, sympathique et utile de connexion entre les gens, à tous les niveaux. Moi qui vis en partie à l'étranger, c'est Facebook, parce que j'ai presque 50 ans, donc je suis encore sur Facebook, hein. Pas encore TikTok et compagnie, mais ça permet de suivre de loin en loin la vie des uns et des autres et de se tenir informé, mais aussi que Facebook nous met un peu dans une boucle d'entendre ce qu'on a envie d'entendre, parce que voilà, de clic en clic, on définit un profil et on entend ce qu'on veut entendre. Et là, on commence alors à rentrer, je dirais, dans l'autre côté de cette médaille, qui est justement tout ce que les réseaux sociaux peuvent véhiculer comme fausse information, qui peut parfois être une fausse information de bonne foi, et puis la désinformation, parce que ça existe, des informations, des fausses informations de mauvaise foi, on se trompe, on ne sait pas, on fait des à peu près. Et la désinformation qui, elle, est une action politique qui vise à décrédibiliser un adversaire, qui vise à faire du mal. Donc on est dans une autre dynamique. Et celle-là doit être combattue avec beaucoup d'énergie, parce que de nouveau, elle a un effet. Elle a un effet politique et cet effet politique, si je reviens sur la République centrafricaine, c'est de justement ne pas contribuer à la réconciliation qui doit permettre la reconstruction. Et ça n'est évidemment pas du tout innocent. Et donc voilà, sans rentrer dans tous les détails, parce que je n'ai pas tous les détails non plus, il faut le reconnaître, mais c'est vraiment quelque chose à quoi, c'est une chose à laquelle on est particulièrement attentif, parce qu'elle peut être très préjudiciable au programme que nous mettons en œuvre au bénéfice de la population.
Toujours cette question de la désinformation, il y a Léonora qui veut rebondir.
Ah oui, je me disais, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire au fait pour pouvoir lutter contre ce fléau la désinformation au milieu jeune en fait?
Eh bien, ce qu'elle fait déjà et qu'elle peut probablement faire plus et mieux, c'est soutenir tous les acteurs, médias et autres, dans leur quête de la vérité et de la réalité des faits. Maintenant, il faut être humble. C'est comme un certain nombre de combats qu'on doit faire en politique. On sait que ce sont des combats dans lesquels on ne sort jamais totalement gagnant ou pas rapidement gagnant, parce qu'on court un petit peu, évidemment, après la désinformation. Donc il y a deux choses qu'il faut faire. Et nous soutenons tous les acteurs qui veulent le faire, mais en même temps, nous envoyons des messages politiques très clairs. Je profite pour le faire aujourd'hui encore. Il y a, d'une part, démonter les mécanismes de la désinformation, en général, là-dedans aussi, chaque fois, démentir quand il y a de fausses informations qui sont diffusées, mais il y a aussi, je dirais, une action positive qui est de plus et mieux communiquer sur ce qui est fait, de positif. Et c'est aussi finalement de nourrir le flux de l'information par des éléments factuels et des analyses positives, sans cacher la réalité, mais vraiment dire ce qui est fait, comment c'est fait et quels sont les effets positifs de cela. Donc on parle toujours des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure, même s'il y a beaucoup plus de trains qui arrivent à l'heure que de trains qui arrivent en retard. Eh bien c'est ça qu'il faut faire, c'est aussi parler des choses qui se passent, des choses positives, des engagements, des réussites. tout en, comme je le disais, tout en faisant toujours mieux. Il y a toujours moyen d'être, donc je le disais, je l'ai dit tout à l'heure, il faut être humble aussi, il faut se dire que les programmes qu'on met en œuvre, si on les met en œuvre, c'est qu'on les a préparés, qu'on espère évidemment qu'ils donnent des résultats positifs, mais c'est aussi pour ça, et c'est aussi l'objet de notre mission cette semaine, c'est de faire l'évaluation permanente des programmes et de voir comment on peut les améliorer au fur et à mesure de leur mise en œuvre pour être certain qu'ils atteignent leurs objectifs.
Merci à toutes et à tous encore pour votre contribution dans cette table ronde avec les jeunes sur Radio Ndekeluka. Faisons une pause musicale avant de poursuivre les échanges. Le titre que nous allons écouter est du regretté Vezo. Ça s'intitule « Les larmes d'un peuple ».
La musique destinée aux combattants, à tous ceux qui veulent soutenir le combat qu'ils se présentent. Manègue Chala, l'ambiance est mou qui se focus. Manègue Guy Trésor Ningata, Guy Ferreira, Elvis pour Mayanko. Allons-y, parlons des larmes de ce peuple. Direction de Bangui, pas venu pour l'ancien défi. Juste un tic-tac-racie, 87 mafia, Kadhafi. La rage brûle du film, Afro-Souka, laisse-moi voir défiler. Sankara, musique, Timba, Yoma, Wata, défilé. Réalti, Quadrati, Aya, passé, Bumene, a coulé. Voilà, Kawa, c'est les garçons, corti, conscientisé, navré. Bundani, Wapapé, il doit tirer, tressé, Ralana, Zendaye, soit la Sada. Si moi, Zoro, Tico, droiti, fragile. Allah, Tene. Tchala, y'en sobal, perdu en face, Timbi, Cécile. Saccagé, Naya, Tiville. A dit quoi, jusqu'à 1000. Puisque gazotine, du braqueur, la mougombe, tissaraillé, soit débile. Votre Nagi, la gagne, tu es joué, Nagere, t'en as la servière. A tes un indien, tu es à Yuroumen, un tank social à fière. Au nom de ma patrie, soulève le drapeau, bleu, blanc, vert, jaune, rouge. A ouais, t'en associe, à destin, à la dent, il faut qu'il bouge. Écoute-moi la voix de ce peuple qui perd pour son avenir. Et puis l'indépendance manipulée convaincre subit. Les armes que vous donnez fait que détruire au lieu de construire. La Centrafrique est un pays où sa richesse pour si on jouit. Daniel, la titi du piraninho. Daniel, la titi pirani sanguinho. Daniel, la titi du piraninho. Daniel, la titi pirani sanguinho. Allons de 5 kilos, miskine jusqu'à la combattant. Yeah. Batia frangin, queen, allez, tchala, est-ce que ce taque vent? Croisement, si casse la cuit, douti, canando, tchabon. Café tanga, oui, si croisé, répète, tiré, quoi, quoi. Factuellement, pas air, kete, yangata. Les tingumbia, comme moi, zone à surprise. Oh, un peu que t'y peux rappeler, t'y obiati, natcha, église. Ita, afra, zombana. A papa, maman, arta, même l'anguéré. Yati, morga, sina, quoi, tia, quoi. Bimba, yo, maïta, mishan, goulé. Bimba, kumbia, mbenyata. Aïkouya, mbenyata. Bakodoro, nagande, la. A querendo a lei goti langota. A fazo, a goti totozo. Na place 4 iso aqui a guabi grenada. Sotené.
Merci, vous êtes dans la table ronde de Moseka Attitude avec les jeunes. En guise de rappel, nous sommes quatre autour de cette table. Monsieur Bernard Quintin, directeur général Afrique du Service européen d'action extérieure de l'Union européenne. Aseira Ibrahim, Leonora Kassala, toutes deux des étudiants et moi, Jefferson Zigaraba. La cabine technique est contrôlée par Gabriel Trésor et Yedne Mati. Revenons à notre échange du jour. On aborde cette fois-ci la sécurité. Radio Ndekeluka, le développement d'un pays, M. Bernard Quintin, ne peut se faire sans la sécurité, même si ici à Bangui, un calme règne dans certaines localités de la RCA, l'insécurité persiste encore. Vous voulez réagir à cette situation, Aseira?
Oui, bien sûr, Jefferson. M. Quintin, nous, Centrafricains, savons tous que l'Union européenne appuie depuis plusieurs années les forces de défense et de sécurité de la RCA en termes de formation et d'équipement. Malgré tout cela, le défi sécuritaire est toujours immense. La question est la suivante. Qu'est-ce que les Centrafricains peuvent encore espérer davantage de l'Union européenne pour une stabilité sécuritaire?
Merci. D'abord, en effet, la situation sécuritaire en RCA reste extrêmement préoccupante. Ça, il faut le dire, je dirais, en préambule, ne pas se voiler la face. Maintenant, il y a des avancées tout de même. Moi, je note la proclamation du cessez-le-feu par le chef de l'État, qui me paraît une étape extrêmement importante. Et bien sûr, nous appuyons l'appel à ce que tous les groupes rejoignent ce cessez-le-feu. et travaillent ensemble à la solution politique dont on parlait tout à l'heure, donc pour la réconciliation. Alors, comme vous l'avez dit, l'Union européenne est occupée depuis quelques années maintenant, singulièrement dans la formation, avec la mission qu'on appelle UTM, donc ça c'est la formation des militaires, et puis il y a la mission qui est EUAM. L'Union européenne aime bien les acronymes, hein, donc il faut s'habituer. Et en plus, ils sont en général en anglais, en français, c'est un peu différent. Mais donc on a UTM pour la formation des militaires, et EUAM pour ce qui est la formation des forces de sécurité intérieure, donc police et gendarmerie. C'est une étape, mais évidemment, elle n'est pas suffisante, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des hommes et des femmes de troupes bien formés. Encore faut-il qu'ils soient bien commandés. Donc c'est aussi un élément dont nous devons nous soucier en appui. Et j'insiste, je répète un peu toujours les mêmes choses, mais c'est important, c'est toujours en appui des autorités de la République centrafricaine. Donc nous ne sommes jamais là pour nous substituer aux autorités, nous sommes là pour appuyer. Nous sommes d'ailleurs là à la demande des autorités centrafricaines, dans un dialogue qui est franc. Alors, il n'est pas toujours exposé au grand public, c'est toute la question de la transparence. Moi, je suis évidemment, nous soutenons, et moi personnellement aussi, je soutiens la transparence, mais il y a parfois des choses qu'il est bon de dire derrière une porte fermée pour pouvoir être plus clair. Et nous avons, avec les autorités, parce qu'elles nous permettent de le faire aussi, un dialogue très franc avec les autorités sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est un dialogue, donc ça va dans les deux sens. Nous avons nos propres éléments que nous apportons en disant, voilà, nous faisons cette formation, mais maintenant, quid du déploiement de ces militaires, quid du suivi, une fois qu'ils sont déployés, par qui, où vont-ils, comment sont-ils commandés, que font-ils? Parce qu'il y a évidemment un engagement de l'Union européenne, non seulement un engagement financier important, un engagement humain important, mais il y a aussi, je dirais, un engagement moral et politique dans ce que l'on fait. Et donc ça, c'est très, très important. Maintenant, nous avons aussi besoin, je disais, dans ce dialogue du retour à la fois des autorités, mais aussi de la société civile, chacun avec ses responsabilités par rapport à cela, pour voir ce qui, selon elles, tant les autorités que la société civile, fonctionne et ne fonctionne pas, et voir comment on peut améliorer l'offre que nous pouvons donner. Alors, nous ne pouvons pas tout faire non plus, pour une question de moyens, mais aussi pour une question de choses. Il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on fait moins bien. Il faut reconnaître ce qu'on fait moins bien et dire, mais peut-être que d'autres, et certainement que d'autres, font bien ce que nous ne pouvons pas faire. Donc là, nous devons travailler en partenariat. Et là, de nouveau, c'est une responsabilité des autorités que de coordonner les efforts des différents partenaires pour qu'on puisse apporter une réponse la plus efficace possible à une situation qui est finalement une situation que vivent les Centrafricains et les Centrafricains au quotidien. L'insécurité, c'est une réalité pour beaucoup de Centrafricains et de Centrafricains. Je sais que les autorités en sont conscientes, qu'il y a une volonté de régler le problème. Maintenant, il faut aussi, et l'histoire nous apprend qu'il faut du temps, mais il faut la volonté. S'il n'y a pas de volonté, le temps ne changera rien. On constate cette volonté, il faut l'appuyer. Ben, je sors un petit peu de la question que vous me posiez, mais il faut l'appuyer, mais ça fait partie de cela.
Mais est-ce que les Centrafricains peuvent encore compter sur l'Union européenne pour le retour effectif de la paix en Centrafrique?
Les Centrafricains ont pu compter, et depuis longtemps, sur l'appui de l'Union européenne, et peuvent et pourront compter sur l'appui de l'Union européenne. Alors pour le retour de la paix, oui, parce que comme on l'a dit, sans sécurité, c'est-à-dire sans paix, il n'y a pas de reconstruction, je dirais même il n'y a pas de construction possible. Donc c'est pour ça. Donc ce n'est pas un mantra, je dirais, seulement philosophique. Oui, la paix, c'est important, mais là, on peut faire une autre émission sur qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que la paix intérieure, qu'est-ce que la paix entre soi, etc. Mais surtout, c'est la concorde, je dirais, qui est importante. C'est que chacun puisse vivre, puisse vaquer à ses occupations, puisse profiter du fruit de son travail, qu'on puisse sortir de chez soi sans se faire agresser, qu'on puisse profiter de ses biens en toute tranquillité. Donc, on peut le faire. Je suis toujours réticent à donner des chiffres parce que, voilà, il y a parfois un petit côté un peu vulgaire même là-dedans, mais quand même, c'est important. Depuis 2014, au niveau de l'Union européenne, on a mobilisé 900 millions d'euros en soutien à l'Union africaine. Alors c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Quand on voit la taille du pays, on peut se dire c'est pas beaucoup. Après, on voit la population. Ça m'avait frappé la première fois que j'étais venu en lisant le dossier, que finalement, c'est un pays peu peuplé. Je suis belge, donc je compare à ce que je connais. Donc c'est 20 fois plus grand que la Belgique, mais c'est à moitié peuplé par rapport à la Belgique. Alors, on pourrait se dire, tiens, voilà un avantage, il y a moins de gens. Mais en fait, quand même, non, ça veut dire que il y a peu de gens pour exploiter toutes les richesses de ce pays. Donc, c'est un défi en soi aussi.
Ok, merci Monsieur Bernard Quintin. Une autre préoccupation des jeunes que Léonora veut vous la poser, c'est par rapport aux questions des violences basées sur le genre. Léonora.
Nous savons que les femmes, puis encore les jeunes filles, sont encore victimes de multiples violences ici en RCA. J'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des mécanismes de la part de votre institution pour aider ces personnes ?
Parler de mécanismes, on a un plan d'action. Mm-hmm. Un plan d'action genre qui vient d'être finalisé. Et vous me direz, un plan d'action, ça fait une belle jambe femmes et ces jeunes femmes et ces jeunes filles qui subissent ces violences. Mais ce qui est important dans ce plan d'action, c'est que cela veut dire que cet aspect genre, en général, en ce compris l'aspect violence basée sur le genre, sera vraiment mis en valeur dans chacune des actions que nous allons mener. On a parlé tout à l'heure de la formation des militaires et des policiers. C'est un élément qui est dans la formation. Il y a une formation aux droits de l'homme. Eh bien, nous allons encore plus insister dans cette formation à la lutte contre les violences basées sur le genre dans ces formations-là. Mais dans un tas d'autres programmes, dans les programmes, les différents programmes d'éducation que nous pouvons soutenir, ce sont donc, c'est quelque chose qui sera un fil rouge de toutes les actions futures. C'est déjà quand même quelque chose d'important. Et il y a deux volets, si vous me permettez, sans être trop long.
Allez-y.
Il y a un volet tout à fait direct, je dirais, d'avoir des programmes de conscientisation. Hein. C'est Feu Vézeau qui parlait dans cette chanson « Les larmes d'un peuple ». Tout un programme de conscientiser. Donc il y a tout un travail de conscientisation. Il y a un travail aussi de lutte contre l'impunité qui doit être mené, que les violences basées sur le genre soient reconnues comme telles, que des procès aient lieu. C'est pas un problème qui ne concerne que la République centrafricaine. C'est un problème qui concerne globalement le monde entier. C'est un problème qui concerne aussi nos sociétés occidentales dites développées. La violence basée sur le genre, c'est une préoccupation permanente dans nos sociétés aussi. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. En parler, dénoncer, lutter contre l'impunité. Et je dirais l'autre volet, qui est peut-être sur le plus long terme, c'est aussi veiller à la place des femmes dans la société. Et donc là, on n'est pas dans les luttes contre la violence, mais à ce que les femmes en politique, les femmes dans le milieu des affaires, les femmes dans la police, par exemple, aussi dans l'armée, donc ça, augmenter la représentation de la femme et la présence, même plus que la représentation, la présence effective des femmes dans la société est aussi un moyen de lutter. Donc dire la femme n'est pas qu'un objet sexuel, si vous me permettez, parce que c'est ça finalement dans cette violence basée sur le genre, pas une personne qui doit être minorée, c'est une personne à part entière, c'est une citoyenne à part entière qui a des droits et des devoirs. Et dans ce travail vraiment d'appui au genre, vous me direz, c'est du plus long terme, ça fait partie de la conscientisation, hein. Je reviens sur Vézeau, de faire en sorte qu'on puisse aussi lutter contre la violence en appuyant cette place et cette visibilité de la femme dans la société.
Et comme nous sommes dans l'émission Moseka Attitude, c'est l'espace qui est réservé aux jeunes, hein, monsieur le DG Afrique de l'Union Européenne ici. La question du développement de la jeunesse nous préoccupe aussi. Et donc, on va donner la parole à Aseira qui a une question à poser par rapport à la jeunesse.
Oui, une fois de plus, merci. Monsieur le DG, la jeunesse centrafricaine ne se résume pas qu'à Bangui. Si l'Union Européenne se préoccupe de cette catégorie de la population, que peut espérer la jeunesse sur son développement ?
Merci pour cette question. Vous avez raison, la jeunesse n'est pas seulement à Bangui. Je dirais même la République centrafricaine n'est pas seulement à Bangui. Donc nous sommes très très conscients de cela. Et donc tous nos programmes sont traversés, on parlait tout à l'heure du genre, sont aussi traversés de cette dimension jeune. Pourquoi ? Parce que ça n'aurait aucun sens que ce ne soit pas le cas. Quand on regarde les chiffres et la pyramide des âges en République centrafricaine et dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, si on ne cible pas spécifiquement cette jeunesse dans nos programmes, on construit sur du sable.
Justement.
Parce que quand on a des pays où 50% de la population a moins de 18 ans, et je n'ai pas vérifié les chiffres, mais je subodore que c'est le cas pour la République centrafricaine, il faut le faire. Première chose, l'éducation, l'école. C'est peut-être pas très vendeur pour les jeunes, hein, mais c'est un vieux qui le dit. Enfin, je n'ai pas encore 50 ans, donc je me considère toujours dans la tranche des jeunes. Non, l'école. Le droit d'aller à l'école, droit d'être instruit pour avoir des chances de pouvoir aller comme vous à l'université ou dans une haute école, eh bien il faut avoir fait l'école primaire, l'école secondaire, mais non seulement être passé par l'école primaire et secondaire, mais des écoles primaires et secondaires de qualité,
oui.
Pas de l'occupationnel, vraiment de l'instruction, et de l'éducation. Donc c'est pour ça qu'on met pas mal, alors je ne vais pas me lancer dans les chiffres, mais enfin l'éducation est un élément extrêmement important, non seulement pour l'émancipation, enfin pour l'émancipation de ces jeunes, pour pouvoir être acteur de sa propre vie. Donc on a beaucoup parlé de politique, mais pour pouvoir être acteur de sa vie politique en tant que citoyen et donc électeur, il faut quand même comprendre le monde dans lequel on est. Et je ne dis pas qu'il faut être licencié en philosophie ou en sciences politiques pour autant. Il faut simplement être conscientisé, on revient à ce mot-là pour le faire, mais aussi acteur économique pour assurer sa propre subsistance, mais pourquoi pas aller au-delà de ça. Donc c'est vraiment quelque chose. Maintenant, on ne va pas se voiler la face, les défis sont énormes.
Énorme.
L'accès à l'intérieur du pays n'est pas toujours simple non plus. Donc on est conscient de cela. Beaucoup de nos programmes ciblent en effet tout le pays, donc pour pouvoir justement sortir de la ville de Bangui. Et donc cet aspect justement est jeune partout dans le pays, sera un élément central de notre prochaine programmation. Donc il y a l'Union européenne fonctionne avec une programmation de 7 ans. Le prochain programme multiannuel indicatif de programmation va être finalisé dans les semaines qui viennent. Et cet aspect jeune sera une des pierres angulaires de cette nouvelle programmation.
Donc ça veut dire que les jeunes doivent encore attendre un peu. Mais quand vous touchez déjà la question de l'éducation, il y a Léonora qui a une préoccupation.
Compte tenu de l'éducation, vous avez parlé ici de l'éducation des enfants qui doivent être instruits. Je sais que des années, vous avez investi dans le cadre de l'éducation, mais je me demandais qu'est-ce que l'Union européenne peut faire compte tenu des problèmes d'infrastructure, les écoles qu'on peut voir aujourd'hui qui sont vraiment délabrées. Qu'est-ce que l'Union européenne prévoit de faire pour remédier à cela ou bien pour rehausser le niveau d'éducation en Centrafrique ?
Je viens de toucher du doigt, en effet, la question de l'éducation. Je vais revenir sur ce programme indicatif de cette année. Donc, il va reposer sur trois piliers. Parce qu'il ne peut pas y avoir trois pierres angulaires. Je ne suis pas architecte, mais je crois qu'il peut y avoir qu'une pierre angulaire. Mais en tout cas, il peut y avoir trois piliers, qui est la paix, sécurité, justice et gouvernance. Ça, c'est le premier pilier. C'est un peu ce dont on a parlé au début de l'émission. Créer finalement l'environnement dans lequel on pourra, à ce moment-là, mieux mettre en œuvre les deux autres piliers. Le deuxième pilier, c'est le développement humain. Alors, y inclut, mais je dirais singulièrement, l'éducation, la santé et le genre. On en a parlé aussi. Et le troisième pilier, c'est tout le développement durable et le développement de l'économie verte, qui est le sujet, enfin, dont on parle d'ailleurs à Glasgow encore cette semaine pour la COP26. Et dans cet aspect éducation / instruction, il y a en effet, bon, il faut des bâtiments, en effet, pour recevoir les jeunes élèves. Il faut des enseignants, il faut des enseignants qui soient formés, il faut des enseignants qui soient payés, il faut des bâtiments dans lesquels on puisse recevoir. Donc c'est tout cela. Maintenant, je ne vais pas vous détailler ce programme aujourd'hui, parce que j'oublierai certainement un certain nombre de choses. Ce qui est fondamental, c'est que, de nouveau, nous travaillons, on ne travaille pas dans notre petit vase clos de Bruxelles à essayer de voir mais qu'est-ce qui est bon pour les Centrafricains et les Centrafricains. On travaille avec tous les acteurs centrafricains. Bien sûr, les autorités politiques qui ont la responsabilité première d'assurer le bien-être de la population centrafricaine, mais aussi voilà, le monde des enseignants, les parents, donc la société civile, comme on dit en général, pour voir quels sont les besoins. Mais je ne veux pas raconter des bobards. On ne va pas tout faire, parce qu'on n'a pas les capacités de tout faire. Ce qui est important pour nous, c'est de voir comment on peut contribuer à des dynamiques. Et ça marche aussi. Et comment est-ce qu'on peut inclure, enfin travailler, je dirais plutôt, avec les communautés locales. Je pense que c'est très, très important. Par exemple, vous parlez de construction d'écoles. Ben ça, c'est mon avis personnel, mais qui se nourrit quand même de mon expérience. J'étais en poste au Congo, j'étais en poste au Burundi. Si on travaille avec les communautés locales, par exemple pour la construction des bâtiments, en impliquant l'association des parents et ce genre de choses, et en faisant ne pas arriver avec une école clé sous porte qui a été construite par la société Tartampion qui vient d'Europe, de Chine, de Russie, ou même d'un autre pays africain. Non, travaillons avec les personnes, construisons, on fait de la formation aussi. Donc on forme des gens à des métiers techniques, de maçon, de taulier, que sais-je, de menuisier, etc. Donc ça c'est vraiment la dynamique dans laquelle on est. Comment est-ce qu'on construit une espèce de programme intégré et intégral pour le faire ?
Ok, une fois de plus, merci à toutes et à tous pour cet intérêt que vous nous placez. Mais avant de revenir ici sur le plateau et clôturer notre échange d'aujourd'hui, nous allons écouter MC Fonctionnaire dans ce titre Espoir.
MC Fonctionnaire. Mais d'où moi je me trouve, mais qu'est-ce qui te prouve qu'ici on est pauvre? Ça c'est pas vrai, si sauf que 3000 km carrés, on est bécadé, on n'est pas séparé, où tu peux te barrer? C'est un obstacle, on reconnaît les hommes. Y'a de bonnes nouvelles quand tu sens sur mon ventre. Dans nos villes, voire même dans nos villages, les souris s'affichent sur les visages. Sage, Bangui reste dans mon paradis. Quand tu rêves, donc de partir, je peux pas te mentir, ici y'a la thune. Parce qu'il y a pas dans nos quartiers, la vente est fausse, les taxes et papiers.
Gâteau rap, tu me sais, nous bouge pas, où we are, where we are. Welcome to see her. See to the African Republic is my country. Can't forget it, the love for my public. Somebody go and come back again, go back. Some of my friends disappear in the front end. Many men die after this big bad. Where who shake our heart? I'm look like we watcher. Living my life for rent contract cannot, cause I know I said stop it. There is a life here. I was be born here, grown here, live here. I get my prayer here. We need to die here.
On ne quitte pas, c'est la vie de Bangui. Malgré les tueries, coups d'état et mutinerie. On ne quitte pas, y'a la vie à Bangui.
Attends la tenue quand on soit fou, mais il a, il faut appeler.
On ne bouge pas, y'a la vie à Bangui.
Y'a la vie à Bangui.
Y'a la vie à Bangui.
On s'inquiète pas.
Big manager Joachim of Yim Center, where we are.
Tu n'as qu'en retard. Tu t'inquiètes pourquoi? On dit ma ville natale, non ne quitte pas. Pas qu'il dise, quoi qu'il fasse, non ne bouge pas. Crois-moi, qu'est-ce que tu veux toi? Shiba, Shuya, Wamara. Oh, y'en a plein en Bangui. Donc, y'a la vie ici. Malgré les tueries, les pénuries d'économie, on a survécu. Bessa, ambiance à Boutouma. Chaque dimanche d'attirer une goule, je crois n'a pas tout ma. De quoi y'a Waza?
Gérard Di Rosemont, Ingrid Chandanga, where we are, in the sea.
On ne quitte pas, c'est la vie de Bangui.
Malgré les tueries, coups d'état et mutinerie.
On ne quitte pas, y'a la vie à Bangui.
Attends la tenue quand on soit fou, mais il a, il faut appeler.
On ne bouge pas, y'a la vie à Bangui.
Y'a la vie à Bangui.
Y'a la vie à Bangui.
On s'inquiète pas, y'a la vie à Bangui.
Rien n'est fini, rien n'est fini, rien n'est fini.
Y'a la vie à Bangui,
y'a la vie à Bangui.
Malgré y'a pas des bandits, on vit comme des bandits.
On vit qu'une vie de haine, de haine, de peine, de peine, de crise, de crise, de peur, de peur, de meurtre, on meurt, de crise, de merde, de course, de vol, en vol. Et pourquoi on est,
c'est. Eh bien voilà, y'a la vie à Bangui. Merci beaucoup à vous, Gabriel Trésorier Nemati, pour ce beau titre. Merci aussi à notre illustre invité pour sa disponibilité dans l'émission Moseka Attitude aujourd'hui, où nous nous intéressons à l'appui que l'Union européenne donne à la République centrafricaine. Revenons ici sur le plateau avant de clôturer notre échange avec vous, Monsieur Bernard Quétin. À vous entendre aujourd'hui, peut-on dire que le partenariat entre l'Union européenne et la République centrafricaine va bon train?
Oui, je pense qu'on peut le dire. Il va bon train. Alors, je reprendrai ce que mon collègue MC fonctionnaire, je dis mon collègue, parce que moi c'est BQ fonctionnaire, elle a dit, on ne quitte pas, il y a la vie à Bangui. Alors, on ne s'inquiète pas, peut-être que je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on ne quitte pas, il y a la vie à Bangui. Donc, on reste mobilisé dans les différents aspects qu'on a pu aborder avec vous, et je vous remercie d'ailleurs pour les questions qui m'ont permis d'en parler. Mais justement, je profite, alors si vous me permettez, on ne quitte pas parce qu'il y a la vie à Bangui. On a beaucoup parlé de la République centrafricaine et de sa relation avec l'Union européenne. Il y a un élément aussi que je voulais peut-être ajouter, à quoi nous travaillons beaucoup, c'est aussi appuyer la région dans laquelle s'inscrit la République centrafricaine et appuyer la République centrafricaine dans ses relations avec la région. Non seulement, je dirais, dans ses relations bilatérales avec ses voisins, mais aussi avec les ensembles régionaux, je pense singulièrement et à la CIRGL, pour vraiment, voilà, parce que la République centrafricaine, enfin, il suffit de regarder sur la carte, elle ne s'appelle pas centrafricaine pour rien, je veux dire, elle est au centre de l'Afrique. C'est un pays enclavé, ce qui évidemment amène des défis et donc amène cette nécessité de relations. Alors, on a coutume de dire on ne choisit pas ses voisins. Hein. Donc, surtout quand on est un pays, on choisit encore moins ses voisins parce qu'on ne peut pas déménager. Mm-hmm. Les voisins, ils sont là et donc il faut vivre avec eux. Et je voulais insister sur ce message-là aussi. C'est l'implication de la région et de la République centrafricaine avec sa région, justement pour la recherche de la paix.
Ok. En République centrafricaine, M. Bernard Quétin, en plus de l'Union européenne, il y a aussi d'autres partenaires internationaux. Et donc, on aura à à une question concernant la relation de l'Union européenne et les autres partenaires internationaux en République centrafricaine.
Ok, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir quel est le degré de coopération entre l'Union européenne et les autres partenaires internationaux présents en RCA.
C'est une question à laquelle je vais tenter de répondre. Et je pense que je l'ai dit tout à l'heure aussi. Ce qui est important, nous sommes là comme partenaire, un partenaire fidèle, un partenaire ancien. Et c'est l'avantage de l'Union européenne, c'est qu'elle peut justement travailler. Elle a cette profondeur de temps que peut-être parfois des États n'ont pas, parce que les contingences politiques sont différentes. Mais nous sommes un partenaire de la République centrafricaine et nous travaillons singulièrement dans beaucoup de projets avec les autorités, parce que ce sont elles qui ont la responsabilité. Et une des responsabilités de ces autorités, c'est justement de fédérer ces différents partenaires. Alors ça dépend de quel type de partenaire on parle, évidemment. Mais si on parle de partenaires à caractère étatique ou je dirais simili étatique, c'est évident que c'est au gouvernement à assurer cela. Nous, nous travaillons avec tous les partenaires. Dans ce partenariat pour la paix dont j'ai parlé, le partenaire pour l'APPR, qui est quand même un élément essentiel. Ça, c'est un élément dans lequel on collabore avec les garants, qui sont l'Union africaine et la CEAAC, avec le facilitateur, pardon, qui sont les Nations Unies. Mais il y a d'autres domaines, aussi dans les domaines de coopération, je dirais, plus classiques. On va parler d'éducation, on peut parler d'infrastructure, on peut parler de développement durable, etc. Ce que nous demandons, c'est une véritable coopération, et cette coopération ne peut se faire que dans la transparence. Ça, c'est très, très important pour nous, la transparence. Nous n'exigeons, ni ne voulons d'ailleurs, une forme d'exclusivité de relation dans cette coopération. Ce n'est pas la nature de l'Union européenne ni de ses États membres, et ça n'aurait aucun sens. Par contre, ce qui est nécessaire pour qu'on puisse justement travailler, je dirais, non seulement le plus efficacement, mais aussi le plus paisiblement possible ensemble, c'est vraiment la transparence dans tous ces mécanismes, dans tous ces partenariats. Les défis sont immenses, on l'a dit. Et donc, il y a de la place pour toutes les bonnes volontés, pour aider les Centrafricaines et les Centrafricains à relever ces différents défis. Donc vraiment, on n'a pas d'exclusive. La seule chose qui est importante pour nous, c'est vraiment la transparence.
Encore une fois, le développement et l'épanouissement des jeunes nous tient à cœur dans cette tribune des jeunes sur Radio Ndekeluka. Et donc, Asseira, vous avez la parole. Posez votre question à M. Bernard Quintin.
Monsieur Bernard Quintin, est-ce que nous, jeunesse centrafricaine, pouvons encore compter sur l'Union européenne pour notre épanouissement?
Je peux développer si vous voulez.
Allez-y.
Oui, vous pouvez compter, mais si vous me permettez une petite anecdote, j'étais chef scout longtemps et on avait un vieil aumônier qui était un vieil abbé qui zozotait un petit peu, qui était un peu le vieux sage et j'étais scout à l'époque et on avait des problèmes avec notre staff qui finalement quand on y pense sont aussi des jeunes, hein. Quand on est chef scout on a quoi, 18, 19, 20 ans, on est un peu... Avec tout le respect que je vous dois, on reste un peu des gamins quand même, d'une certaine manière. On a encore des expériences à faire, on va dire ça comme ça. Et on se plaignait, et donc cet abbé qui était un peu l'oreille attentive, on était plusieurs, dont moi-même, à s'être un peu plaint des chefs. On trouvait qu'ils n'étaient pas bien, enfin, qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait, qu'ils nous disaient de faire des choses qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes. Enfin, des choses très très classiques. Et le soir, à la fin de la réunion, quand on était au dernier rassemblement, il nous a dit, voilà, j'entends qu'il y a des problèmes, que vous, scouts, vous n'êtes pas très contents de vos chefs pour des raisons sans doute bonnes et peut-être d'autres raisons moins bonnes. Mais il nous a dit, en nous regardant, mais aussi en regardant nos chefs, il nous a dit, mais scouts, et ça pourrait se dire jeunes, l'exemple monte. N'attendez pas qu'ils descendent. Il y a cette responsabilité aussi de la jeunesse à montrer l'exemple, à exiger, mais à exiger de manière vertueuse. Donc je pense, dans nos programmes, une des choses que nous devons faire, c'est vraiment, alors on dit en bon français, c'est le empowerment, hein, c'est mettre en capacité les jeunes aussi, mais de dire, c'est votre responsabilité aussi, d'être exigeant envers vous-même. Il faut toujours d'abord être exigeant avec vous-même, mais aussi, et finalement, dans votre comportement, de montrer l'exemple. Je sais que ça paraît un peu éthéré, hein, ça paraît un peu plané ou un peu superficiel, mais c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, je m'en souviens presque 40 ans après, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je ne dis pas que je l'ai toujours fait, mais je l'ai toujours eu en tête de me dire, mais je peux toujours exiger de mes patrons, parce qu'on a toujours des patrons, même quand on est directeur général adjoint, on a des patrons, et c'est bien comme ça, mais on peut toujours exiger. Mais qu'est-ce que moi je fais pour montrer cet exemple? Donc je crois qu'il y a vraiment, donc c'est pas culpabilisant. Hein. Enfin, j'espère que je ne donne pas cette impression-là. C'est vraiment, c'est dire, mais vous êtes aussi responsable. Prendre des choses plus concrètes. On a parlé donc, de renforcement des capacités, d'éducation. Donc, il y a l'école, mais il y a aussi tout ce qu'on fait au niveau du renforcement, disons, comment je dis, d'offrir des opportunités économiques à cette jeunesse. Ça passe par de la formation, évidemment, mais il faut aussi que ce qu'on appelle le climat des affaires permette l'épanouissement des différentes activités économiques que l'on veut faire. J'en parlais tout à l'heure de manière plus générale. Il faut qu'on puisse jouir en fait, du produit de son travail et avoir la sécurité. Non seulement pour soi, pour ce qu'on fait, mais c'est aussi ce qui va permettre d'attirer plus d'investissements. Parce que la coopération au développement, elle est là pour, disons, affermir les bases. Mais le véritable développement viendra par le développement économique. Donc on a besoin de base, parce qu'on a besoin de gens en bonne santé, on a besoin de gens éduqués à quelque niveau que ce soit. On a besoin, bien sûr, de la paix et la sécurité. Mais ça n'est pas ça qui va assurer le développement pérenne du pays. Ce qui va assurer le développement pérenne, c'est le développement de l'activité économique qui peut se faire sur différentes bases. Mais je parlais tout à l'heure du troisième pilier, qui est vraiment cette croissance verte. Alors, ce sont un peu des concepts, mais vous avez ici quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une forêt, vous avez encore une forêt, ce qu'on appelle la forêt primaire. Et donc, c'est un puits de carbone, mais ça demande peut-être qu'on développe tout un tas de métiers autour de cela. C'est une véritable richesse qui demande aussi à être exploitée, etc. Donc, c'est tout ça qui doit être fait. Et de ce point de vue là, comme je disais, l'Union européenne restera un partenaire de la République centrafricaine aussi longtemps qu'il le faut. Et ne soyons pas pessimistes, soyons optimistes. Espoir, hein, c'était le titre de
c'était
la.
C'était le titre.
Voilà, qui était merci d'avoir terminé par ça plutôt que par l'autre, même si les réalités sont là. Et voilà, à un moment. C'est notre espoir, c'est que finalement l'équilibre soit inversé et que la relation entre l'Union européenne, en tant qu'Union et ses États membres, avec la République centrafricaine, soit une relation qui est la relation classique entre États, finalement, c'est une relation commerciale. C'est on va faire du business ensemble, on va vendre, on va acheter, etc., dans un environnement nouveau. Hein, je ne parle pas de la révolution industrielle du 19e siècle ou des choses comme ça, tout cela évolue, mais c'est des échanges classiques entre États. Et notre travail, ensemble, c'est de mettre la République centrafricaine en capacité d'entrer de plein pied dans ce jeu mondial. De nouveau, ce serait une autre émission, la mondialisation, on peut en parler, mais elle est là, elle s'impose à nous, elle n'apporte pas que des mauvaises choses, mais pour ça, il faut être en capacité de jouer dans ce jeu mondial.
Et si aujourd'hui, vous avez un dernier mot à l'endroit des centrafricains qui nous écoutent, parce que vous êtes de passage ici, on ne saura pas quand est-ce que vous allez revenir encore, mais plus particulier encore, si vous avez un message à l'endroit des jeunes, ce serait lequel ?
D'abord, chaque fois qu'on m'invite, je viens. Donc, si vous m'invitez, je reviendrai. C'est déjà la deuxième fois que je viens, cette année.
Okay,
donc, attention, je vous menace d'une prochaine visite.
On vous attend pas ouvert.
Le message, c'est celui-là. Moi, j'ai bien aimé le message, c'est espoir, mais qui ne doit pas être dans la naïveté. Je dis, il faut pas. On peut être tenté, et je le comprends. On peut être tenté à un moment, quand on voit la situation, de s'asseoir sur le bord de la route, de baisser les bras et de se dire à quoi bon. Moi, je ne condamne pas ça. Ce sont des situations que nous avons la chance, mes collègues et moi, de ne pas avoir dû vivre. Mais ce n'est pas ça non plus qui apportera la solution. Donc je reviens sur cette responsabilité des jeunes à être un aiguillon, à ne pas laisser tranquille vos aînés, mais à être exemplaire aussi de ce point de vue-là.
Ok. Et voilà, c'est ici que prend fin l'émission Moseka Attitude de ce jour. Nous avions l'honneur de recevoir M. Bernard Quintin, directeur général Afrique de Service Européen d'Action Extérieure de l'Union Européenne, en mission ici en Centrafrique, et nous échangeons sur l'engagement européen en République centrafricaine. M. Bernard Quintin, Singila en sango, ça veut dire merci.
Merci à vous, Singila.
Merci.
Ah, on dit Murakose en
aussi, merci à vous, Léonora Kassala, d'être venue.
Ok, merci beaucoup.
Merci également à vous, Aseira Ibrahim.
Merci.
Jefferson Digaraba, c'est moi. Je suis assisté à la partie technique de Gabriel Trésor Yenemati. Merci également à Minino Banjo pour le support vidéo. On se retrouve très prochainement. Restez toujours en compagnie de Radio Ndekeluka.